dire des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Elle est tout en superlatif, dit à son sujet son ami Emmanuel Haïm, la chef d'orchestre. Et c'est vrai que sa voix fruitée et sensuelle, son éclectisme, son exigence, son jeu, son sens de l'humour et son franc-parler, bref, sa forte personnalité sur scène et en dehors, ont fait de cette soprano coloratour française une légende de l'art lyrique. Peu de chanteurs d'opéra auront autant donné qu'elle, par son exigence artistique, par sa voix, capable d'atteindre des aigus stratosphériques, par son jeu aussi, car en plus de l'art du chant, elle est aussi une comédienne dans l'âme. Il faut dire qu'elle a tant parcouru de chemins artistiques, Nathalie Dessay. Le jazz, la comédie musicale à l'américaine ou à la française, la musique brésilienne, les contes pour enfants et j'en passe. Mais c'est sa carrière lyrique qui est à l'honneur dans ce coffret qui vient de sortir et qui raconte 20 ans d'une carrière protéiforme, émaillée de 6 victoires de la musique et de quelques autres prix. 33 CD, dont 7 récitals et 12 intégrales d'opéra, 19 DVD et un livret de 92 pages. Nathalie Dessay, The Opera Singer, est disponible chez Warner Classics et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Nathalie Dessay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez ressenti que vous avez pu tenir pour la première fois entre vos mains cette intégrale d'opéra ?
Et je me suis dit, waouh, on a bien travaillé. C'est lourd.
C'est lourd.
Il y a beaucoup de choses.
Oui. Alors, c'est une boîte cubique, hein, pas toujours facile à ouvrir.
Non, hein, faut mais il faut l'ouvrir une première fois, ensuite mettre un ruban à l'intérieur qu'on fait dépasser des deux côtés, et après, il n'y a plus jamais de problème.
Elle recèle tout ce que vous avez enregistré, tout ce dont vous êtes fière, Nathalie Dessay.
Oui, il y a juste un truc qu'on n'a pas mis, parce que je n'y ai pas pensé, en fait. C'est les airs de concert de Mozart, qui est vraiment un disque que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais bon, à part ça, il y a quasiment tout ce que j'ai fait à l'opéra.
Qu'est-ce que vous avez écarté alors ? C'est le quasiment qui m'intéresse.
Non, c'est-à-dire que je ne sais pas en fait. Je crois qu'on n'a rien écarté de ce qu'on a fait ensemble avec Warner.
Alors pour justement
construire les mélodies, par exemple, oui. les mélodies, tout ce qui n'est pas opéra en fait.
Comment vous avez procédé justement avec Warner ? Vous vous êtes réécouté ? Vous vous êtes regardé à nouveau sur l'écran pour qu'on se passe intégral ?
Non, ils ont tout fait. Ils ont fait un travail formidable. Ils m'ont ensuite soumis le projet et j'ai dit oui. Mais par exemple, j'ai choisi la photo du coffret. Je leur ai suggéré deux photos en fait.
Alors comment elle est justement la photo sur la couverture ?
Oui, alors c'est une photo qu'on avait fait à New York. C'est Brigitte Lacombe qui a pris cette photo et c'est une photo que j'aime beaucoup parce que c'était pour la production de Somnambule, je me souviens, en Met. Et je suis en costume de répétition avec un jupon, avec des chaussures vertes. Et je suis sur une planche et je suis un peu comme Wendy dans Peter Pan. Je marche sur la planche, alors je n'ai pas un bandeau sur les yeux. Au contraire, je regarde bien droit devant. Et j'ai un pied dans le vide et un pied sur la planche. Et je trouve que c'est une métaphore assez jolie de ce qu'est notre métier de chanteur d'opéra.
C'est-à-dire être un peu entre deux eaux, n'avoir pas peur de se mettre en danger.
Oui, être en danger, être toujours sur la brèche. et être, remettre toujours tout en question, en fait. Chaque soir.
Alors, je vous pose la question, est-ce que vous vous êtes réécouté, là, justement, à l'occasion de la sortie de cette intégrale? Pas tellement, vous le faisiez lorsque vous étiez sur scène? Jamais?
Non.
Pourquoi?
Parce que je n'aimais pas trop. Je préfère écouter les autres, ceux que j'aime. Voilà, ceux que j'admire. Ça me paraît plus inspirant que de s'écouter soi-même.
Alors, dans le coffret, il y a le son, hein, 33 CD. Il y a aussi l'image, 19 DVD, ce qui permet de se rendre compte, évidemment, de votre voix et de vos performances vocales, on va y revenir, mais aussi de votre jeu, de votre façon d'occuper la scène, de votre façon d'incarner un rôle, et Dieu sait s'il y en a une, Nathalie Dessay. Vous étiez une chanteuse lyrique qui joue ou une actrice qui chante?
Moi, je me suis toujours considérée comme une actrice qui chantait. Donc, le chant et la musique n'étaient pas un but, c'était toujours un moyen pour incarner des personnages, en fait.
Donc l'opéra, c'est du théâtre, à la base?
Non, mais j'ai fait comme si.
C'est-à-dire que vous avez fait comme si? C'est-à-dire que vous êtes allé à l'encontre de ce que certains de vos maîtres ont pu vous dire?
Non, c'est pas ça, mais j'ai fini par me rendre compte que l'opéra n'était pas du théâtre, comme moi je l'entendais. Mais cependant, on peut injecter autant de théâtre qu'il est possible à l'opéra.
Ça ne nuit pas à la performance vocale?
Si, ça peut nuire à la performance vocale, mais après c'est un... Oui, puis c'est un dosage. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, de ne plus pouvoir chanter, mais j'aimais bien aller toujours aux limites, en fait.
Et donc, toujours cette idée de se mettre en danger qu'on évoquait à l'instant. Oui. En fait, Nathalie Dessay, bien avant de vouloir chanter, vous vouliez effectivement jouer la comédie. C'est l'école qui vous a apporté cet appétit-là?
Oui, sans doute. Je me dis que quand j'étais en CM2, on avait dû travailler sur le malade imaginaire, et comme beaucoup d'écoliers. Et
mais tout le monde n'a pas forcément envie d'en faire son métier.
Et puis j'ai vu aussi le Molière de Mnouchkine. Ça aussi, ça m'a donné envie de faire ce métier. Je me suis dit, ouais, c'est ça ma vie, voilà, c'est ça que je veux faire.
Voilà, et le coffret propose de vous voir dans des rôles. Alors, il y a des rôles assez classiques, hein. Il y a Ophélie dans Hamlet d'Ambroise Thomas, filmé à Barcelone en 2003. Dans un registre un peu plus comique, voire nettement plus comique, il y a votre rôle d'Eurydice dans Orphée aux Enfers d'Offenbach, monté en 97 par Laurent Pelly. Et parmi les prestations qui ont le plus marqué les esprits, il y a La fille du régiment, de Donizetti. Quand on vous a vu incarner une Marie en garçon manqué, avec la tresse, hein, l'accent gouailleur, qui repasse avec énergie les caleçons du régiment. La fille du régiment de Donizetti, mise en scène par Laurent Pelly avec Laurent Campanella à la direction de l'orchestre du Royal Opera House de Londres. Un moment assez incroyable à Nathalie Dessay, cette scène. Il paraît même que désormais, quand quelqu'un remonte cet opéra, on dit c'est le rôle de la Dessay.
Il faut dire que la production était géniale.
Vous aviez conscience à ce moment-là?
Non, la production de Laurent Pelly était absolument, absolument géniale. Et surtout, pensée pour moi, parce qu'on se connaissait, on se connaît très bien avec Laurent. Et donc, il avait fait quelque chose de sur mesure. pour l'actrice que je suis. Et c'est ça qui était super.
Alors, il est très présent, effectivement, dans le coffret. Oui. Laurent Pelly, il vous a souvent mis en scène. Il y a entre vous une vraie complicité humaine et artistique. Hein, va souvent de pair, d'ailleurs.
Oui.
Comment est-ce qu'elle est née, cette complicité?
Elle est née avec Orphée Eurydice de Offenbach. Moi, j'avais repris le rôle à Lyon, je me souviens. Et déjà, il avait, avec Agathe Mélinan, je me souviens, tous les deux, ils avaient repensé le rôle pour moi. Ils avaient repensé le costume, par exemple, des choses comme ça. Et c'est vraiment le premier grand souvenir que j'ai avec Laurent Pelly. Puis après, il y a eu plusieurs autres productions, jusqu'à cette fameuse Fille du Régiment, qui est pas ma musique préférée, mais qui est sans doute un des rôles les plus jouissifs à faire sur scène, dans cette production-là, en tout cas.
Mais qu'est-ce qui vous a rapproché de Laurent Pelly artistiquement? Comment ça se fait que cette alchimie-là
Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, premièrement, qui sait diriger les acteurs, qui ne nous laisse jamais tomber, et qui sait nous mettre en valeur, nous galvaniser, nous amener à nos limites, et tout ça dans la bonne humeur et la joie du travail. C'est ça que j'aime beaucoup avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de travailler dans la joie, et moi aussi j'ai besoin de travailler dans
la
joie.
Donc le plaisir est un moteur essentiel pour pouvoir monter un spectacle,
oui,
c'est-à-dire, pour se produire sur scène.
Oui, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est difficile, on est toujours à court de temps, on est quand on fait un rôle pour la première fois, on est très 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 nerveux, on se demande si ça va marcher, si on va y arriver, etc. Si on va tenir pendant ces 4 ou 5 ou 6 semaines de répétition, si on va arriver en forme à la première, la pression est quand même assez énorme, mais quand on travaille avec quelqu'un comme Laurent, on s'amuse aussi, tellement.
Vous parliez du costume à l'instant, Nathalie Dessay, c'est important un costume pour rentrer dans un rôle?
Très important, très très important. Il y a Birgit Nilsson qui disait que le plus important c'était les chaussures, je la rejoins sur ce point, mais
parce qu'avoir des chaussures inconfortables,
on peut pas chanter.
On peut pas chanter, carrément.
c'est fini, on peut pas se mouvoir, on n'est pas dans le sol, ça va pas. Vous imaginez un tennisman avec des tennis trop petites.
Oui, c'est sûr,
exemple,
c'est pas très pratique,
ça marche pas,
effectivement. Mais le reste du costume aussi.
Parce que c'est une silhouette. C'est, par exemple, cette fille du régiment, je me souviens, le fait qu'elle soit un garçon. Elle pense qu'elle est un garçon, en fait. Elle a pas compris ce que c'était qu'une fille. Elle sait pas qu'elle est une fille. Et quand elle tombe amoureuse, elle sait pas ce qui lui arrive. Et le fait que, par exemple, elle ait cette tresse derrière, un peu comme le baron de Münchhausen ou Fifi Brindacier, oui. Ça c'est aussi une idée que j'ai pu apporter, par exemple. Et je me suis sentie tellement bien dans ce corps de garçon manqué, comme ça, qui se transforme petit à petit en fille. C'est un parcours très drôle.
Est-ce à dire, Nathalie Dessay, que c'est d'abord par le corps que vous entrez dans un rôle d'opéra?
Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que c'est tellement physique de chanter l'opéra que de toute façon, ça peut pas être autrement.
Parce qu'on pourrait penser justement que c'est d'abord par la musique, que c'est d'abord par le texte, que c'est d'abord par les partitions que vous adoptiez un personnage.
Oui, enfin, on commence par étudier la musique et la partition, c'est vrai, et puis rapidement, au bout d'un temps en tout cas, c'est le corps qui parle.
Et le texte, comment est-ce que vous l'abordez, le texte? Parce qu'en plus, vous avez chanté en français, mais dans d'autres langues étrangères. C'est pas la même chose de travailler un texte dans sa langue maternelle ou pas?
Effectivement, c'est plus difficile de chanter dans une langue qu'on parle pas, par exemple. J'ai eu beaucoup de mal avec l'italien, parce que je parlais pas italien, je parle très mal italien aujourd'hui, et j'ai eu beaucoup de mal parce qu'on croit que l'italien c'est proche du français et que ça va être facile. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé en italien pour avoir un italien le plus idiomatique possible. Alors, j'ai eu la chance d'apprendre l'allemand quand j'étais jeune. Mais donc je chantais en allemand relativement naturellement. Et puis il m'est arrivé de chanter en russe aussi. Et là c'est encore une autre histoire parce que je parle pas du tout le russe et donc je ne l'ai fait que phonétiquement, mais avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'amour, notamment parce que j'ai une amie qui s'appelle Stella Grigorian, qui est une très belle chanteuse, qui m'a initiée, qui m'a aidée avec ce la prononciation et la beauté de cette langue.
Quel est le rôle, Nathalie Dessay, dans lequel vous avez eu le plus de mal à entrer?
Le plus de mal, je dirais, là où je me suis pas sentie légitime, c'est probablement Traviata. Parce que Traviata, déjà, j'avais pas la voix, mais je voulais quand même chanter cette partition. Je me sentais pas assez belle pour faire le rôle, et je trouve que c'est important d'être belle, en fait. Et pendant longtemps, je me suis dit, ah non, mais ça marchera pas et tout. Et en fait, j'ai oublié ça assez rapidement. J'en ai fait plus une femme enfant, comme Manon par exemple. J'en ai fait aussi une femme enfant, pas forcément une beauté splendide, mais quelqu'un qui veut manger la vie par les deux bouts. Et j'ai fait de ce désir-là. Éventuellement quelque chose qui pouvait attirer les autres.
Invité Nathalie Dessay dans VMDN sur RFI, ici dans le rôle d'Olympia, la poupée des contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, avec l'orchestre de Paris dirigé par James Conlon. C'est un rôle que vous avez joué ici dans une mise en scène de Robert Carsen. Et c'est un rôle qui était un rôle d'audition, me disiez-vous. Donc celui de Manon qu'on a entendu au tout début de l'émission et celui de la poupée. Ça change quoi justement cette pression de l'audition?
C'est-à-dire que j'aimais pas trop les auditions, mais j'étais assez bonne en audition parce que c'était court. Et comme je suis plutôt une sprinteuse, j'aime quand ça se finit vite.
Donc grosse pression, on y va, voilà. Et on saute dans le vide. Ça revient tout, par rapport à ce qu'on disait effectivement au début. Alors cette poupée Olympia, là, vous l'avez incarnée, je crois, à 8 reprises.
Oui, dans 8 productions différentes.
C'est considérable. Comment on fait pour se renouveler dans ce genre de cas?
C'est pas très difficile parce qu'à chaque fois, la proposition du metteur en scène était très 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 différente, quoi. Donc il y a eu une poupée Barbie mariée. Il y a eu une petite fille, je me souviens, avec Jérôme Savary. Il y a eu une espèce de Liz Taylor, ça c'était à la Scala. Il y a eu une fiancée de Dracula, ça c'était à Anvers. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu une poupée de porcelaine à Vienne, dans la mise en scène de Serban. Je me souviens plus, il y a eu...
Mais on se sert à chaque fois des incarnations précédentes ou bien c'est une page blanche à chaque fois?
Non, c'est comme un numéro de music hall, donc à chaque fois c'est différent. C'est ça qui est marrant avec la poupée, c'est que c'est très très court et qu'on peut inventer vraiment plein de choses.
Voilà, et là on a entendu dans l'extrait du DVD que le public réagit, effectivement.
Oui, parce que, alors si c'est bien la mise en scène de Carsen, à un moment je saute sur Hoffman et je le viole presque dans une... dans une charrette de foin, donc les gens étaient un peu surpris, effectivement.
Bon, l'un des autres rôles que vous avez interprété à plusieurs reprises, c'est le rôle de Zerbinette dans Ariane et Naxos de Richard Strauss. Là aussi, personnage extrêmement différent d'une production à l'autre.
Oui, c'est quand même toujours le personnage de la soubrette, de la fille joyeuse de vivre, et qui voudrait bien consoler Ariane, qui ne se console pas de l'abandon de son fiancé. Et donc, c'est un personnage très vivant de Commedia dell'arte. Donc, là aussi, il y a beaucoup de choses à inventer, et à chaque fois. Et puis, c'est une musique sublime, et un livret d'Hoffmannsthal qui est merveilleux.
Oui, et pourtant, Nathalie Dessay, quand vous avez commencé à préparer vos spectateurs à l'arrêt de votre carrière lyrique...
Je n'ai rien préparé du tout.
Bon, très bien. Voilà. Vous leur avez dit, ah, mais j'en ai marre de jouer en permanence les soubrettes, ce genre de rôle un peu léger.
Au bout d'un moment, on a fait le tour, quoi. Alors je jouais essentiellement les jeunes premières, les soubrettes. Il y a une méchante, c'est la reine de la nuit. Et voilà. Donc arrivé à un certain âge, notamment à 48 ans, puisque c'est à cet âge-là que j'ai décidé d'arrêter l'opéra, j'avais fait le tour de la question et je commençais à m'ennuyer. Je trouvais que ma voix ne me répondait plus comme j'avais envie. J'avais plus de plaisir, en fait, à faire ce que je faisais.
Mais quand on a une voix de coloratour comme la vôtre, on se dit, on a des possibilités vocales absolument énormes, et pourtant, quelque part, ça vous ferme un certain nombre de rôles?
Oui, parce que c'est pas la voix royale de grand soprano lyrique qui vous permet d'aborder les grands rôles du répertoire. Notamment les grands Verdi, les grands Puccini, les Wagner, les grands Strauss.
Donc vous auriez aimé incarner Tosca,
oui,
Madame Butterfly?
Adoré chanter Butterfly, Tosca, ou même un rôle comme Blanche de la Force dans le dialogue des Carmélites, qui est un rôle hélas trop grave pour moi, ou même le rôle de Suzanne dans les Noces de Figaro, c'est un rôle très central que je me sentais pas de faire.
Bon, en tout cas, la Reine de la Nuit, hein, c'est quand même pas si mal.
Oui, mais bon, voilà, c'est drôle, c'est toujours drôle de jouer les méchants.
Oui, c'est le seul rôle méchant, ce que vous venez de dire. C'est étonnant, ça, quand même.
Non, parce que...
On vous a jamais proposé des rôles
de
gentils, vous n'avez pas la voix pour?
Non, c'est la voix de soprano léger n'est pas une voix de méchante.
Bon, la Reine
pas
de
beaucoup,
la Nuit,
en tout cas.
Extrait
tellement.
De la flûte enchantée de Mozart.
Thank you.
L'air de la Reine de la Nuit, de la Flûte enchantée de Mozart, sous la direction de Louis Langrée, Nathalie Dessay. Alors, c'est vrai que vous avez hésité à accepter ce rôle, c'est très étonnant ça, puisque vous venez de me dire que vous regrettiez justement de ne pas pouvoir jouer les méchantes.
Le problème de la Reine de la Nuit, c'est que c'est très dramatique. Et que donc, quand on a une voix légère, c'est un rôle qui peut être dangereux, en fait, au bout d'un moment. Alors, donc, il ne faut pas le faire trop.
Alors, c'est vrai que la technique vocale, c'est... pense toujours que c'est un Everest absolument incroyable. C'est l'un des airs les plus difficiles du répertoire. Comment est-ce qu'on travaille justement?
Non, c'est pas un des airs les plus difficiles du répertoire. C'est un des airs les plus aigus, mais c'est pas forcément le plus difficile.
Faut pas confondre.
Non, parce que c'est toujours pareil. Ces aigus-là, si vous les avez, vous les avez. Je veux dire, bien sûr que c'est...
Donc c'est un don.
Oui et non. C'est-à-dire, oui, parce que vous les avez, mais d'un autre côté, il faut les travailler pour qu'ils soient présentables. Je n'avais pas ces aigus comme ça quand j'ai commencé à chanter. Donc, il faut quand même beaucoup travailler pour que ça paraisse simple.
Alors, comment ça se travaille, justement? Est-ce que c'est en refaisant? C'est très progressif?
Oui, c'est-à-dire que je me souviens au début, avec mon premier prof de chant, je voulais pas aller dans ces zones-là de ma voix. Même si ces aigus étaient là, je trouvais que c'était crié et ça me plaisait pas du tout. Et elle m'a dit mais il faut que tu les donnes pour que je puisse les sculpter, en fait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut vraiment abandonner tout orgueil quand on chante.
Oui, c'est une école d'humilité.
Oui.
Mais comment est-ce que vous avez compris, Nathalie Dessay? Très jeune, hein, évidemment. Comment est-ce que vous avez compris que vous aviez une voix exceptionnelle, que vous pouviez bâtir votre avenir, votre carrière professionnelle là-dessus?
Assez tard, en fait. Parce que j'ai commencé à prendre des cours de chant comme ça, vaguement, quand j'avais 17 ans, pendant quelques mois. Et puis, au retour des vacances, je me remets à chanter et je m'aperçois que tout est parti. Et là, je me dis, oh non, alors ça, c'est pas pour moi. Si le travail qu'on fait s'efface au bout de 2 mois, c'est trop décourageant, je veux pas continuer. Et donc je laisse tomber. Et je n'ai repris qu'à l'âge de 20 ans, parce qu'à 20 ans j'étais apprentie comédienne, et je devais chanter dans une pièce de théâtre qu'on faisait avec des camarades. Et là, tout le monde m'a dit, waouh, mais t'as une jolie voix, il faut que tu fasses ça, il faut que tu prennes des cours de chant, c'est vers ça qu'il faut que tu te diriges. Et c'est les autres, en fait, qui m'ont fait prendre conscience que j'avais une voix.
Et la bifurcation, alors, entre le théâtre et le lyrique?
J'ai fait le théâtre et la classe de chant en même temps. Mais c'est comme ça que ça a commencé.
Alors, cette voix, Nathalie Dessay, elle a montré aussi ses fragilités. Vous avez été opérée à 2 reprises des cordes vocales. Déjà, quand on est chanteuse lyrique et qu'on apprend ce problème-là, qui est un problème extrêmement grave, comment on réagit?
C'était très très dur psychologiquement, mais ça faisait pas mal. Donc ça, c'est bien. Et donc j'ai eu 2 opérations, une sur chaque corde, et le problème physique, en tout cas, a été réglé. Mais hélas, j'ai perdu beaucoup de confiance et j'ai mis beaucoup de temps à réapprivoiser la confiance.
Vous avez eu peur de ne plus jamais pouvoir chanter?
À un moment, oui. Je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse autre chose. Et je ne voyais pas très bien quoi. Je pensais évidemment déjà au théâtre, mais je savais que j'avais encore des choses à dire en musique, et en tout cas à l'opéra.
Et vous aviez, je crois, filmé une des opérations.
Oui, oui.
C'est très étonnant, ça, pour le coup, parce qu'on rentre quand même dans l'intimité, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de honte, contrairement à... qui se dit, il n'y a pas de honte à être blessé, en fait. Et comme un sportif de haut niveau est blessé, et tout le monde trouve ça normal, un chanteur de haut niveau peut se blesser, et ça n'est pas forcément le signe d'une mauvaise pratique, d'une mauvaise technique, ou quoi que ce soit.
C'est un accident du travail, on peut dire ça?
Ça peut être un accident du travail, comme un footballeur qui se blesse à un tendon, ou qui se casse quelque chose.
Alors, un sportif de haut niveau, il doit aussi avoir, Nathalie Dessay, une hygiène de vie extrêmement stricte. Quelle est l'hygiène de vie que vous avez dû vous respecter au quotidien?
Pareil que celle d'un sportif de haut niveau. C'est-à-dire, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut dormir, il faut se reposer, il faut ne pas avoir trop de contrariétés, il faut beaucoup travailler, mais pas trop pour pas être fatigué. C'est compliqué.
C'est une question de dosage.
Oui, et puis il faut s'y consacrer vraiment totalement, quoi, en fait. Et moi, je sais que je ne regrette rien, mais je peux dire que c'était quand même difficile d'être tout le temps partie avec, par exemple, des enfants petits à la maison.
Oui, donc il y a effectivement une vie de famille, il faut faire évidemment des sacrifices, oui, comme dans d'autres métiers, mais plus encore peut-être quand on voyage. La rééducation, justement, pour revenir sur vos problèmes de voix, ça s'est passé comment?
Ça a été 2 fois 8 mois pour la rééducation, j'allais dire, basique. J'ai beaucoup, beaucoup appris, et j'ai travaillé avec des gens formidables d'ailleurs, des orthophonistes, des profs de chant. Mais c'est long et j'ai appris à cette occasion que la rééducation, quel que soit le domaine dans lequel on se rééduque, ça n'est pas quelque chose de linéaire. Et donc c'est ça qui est très décourageant, parce que il y a des semaines on a l'impression qu'on fait beaucoup de progrès, et puis la semaine d'après on retombe de nouveau, et c'est il faut beaucoup de patience en fait et de courage.
Donc c'est le mental qui joue sur le physique aussi.
Oui, oui.
Et est-ce que vous avez chanté différemment après, au-delà de la dimension purement technique, est-ce que cette rééducation vous a aussi apporté des choses dans la façon de concevoir l'interprétation?
Non, on peut pas dire ça. Mais j'ai chanté avec moins d'insouciance, en tout cas.
Ce qui signifie donc que dans j'étais votre tête, inquiète, il y avait une pression supplémentaire.
Oui, il y avait une inquiétude. Alors, quelque part, je savais que ça ne pouvait pas se reproduire. Je ne sais pas pourquoi je savais ça, mais en tout cas, ça ne s'est pas reproduit. Et en même temps, c'était devenu plus grave et plus lourd.
L'air des clochettes de l'Acmé, opéra
un tout petit
de
bout, hein.
Un tout petit bout, oui, opéra de Léo Delibes, avec ici l'Orchestre national du Capitole et Michel Plasson à la baguette. C'est lui d'ailleurs qui vous dirigeait.
Oui, j'ai adoré Nathalie travailler Lucet, avec ce chef d'orchestre.
Voilà, donc à l'opéra, lorsque vous avez dit au revoir à la scène, et Michel Plasson, c'est évidemment l'orchestre du Capitole de Toulouse. Qu'est-ce qui vous a apporté, Michel Plasson?
D'abord, je trouve que c'est un magnifique musicien. Il aime beaucoup les chanteurs. Il sait respirer avec eux. Il sait les porter, les magnifier. Et cet enregistrement de l'Acmé, c'est, je crois, le seul que j'ai fait véritablement en studio. Il est vraiment très cher à mon cœur, parce que c'est un opéra que j'aime beaucoup, l'Acmé, que je trouve vraiment très joli et pas assez donné. D'abord parce qu'il faut quand même des interprètes particuliers, il faut une voix vraiment très aiguë pour le rôle de la soprano, et puis un ténor qui est capable de tenir le rôle de Gérald, qui a un rôle très compliqué en fait à chanter, toujours sur le passage. Et je suis contente que quelqu'un comme Sabine Devielle l'ait repris il y a quelques temps, et j'espère qu'elle va le rechanter, parce que c'est vraiment une très jolie chose.
Alors, l'orchestre de l'opéra du Capitole de Toulouse, vous connaissez bien le Capitole, puisqu'avant de devenir soliste, vous étiez pensionnaire du chœur.
Oui, absolument. J'ai commencé dans les chœurs au Capitole de Toulouse, et j'ai terminé ma carrière d'opéra au Capitole de Toulouse dans le rôle de Manon.
Voilà, donc la boucle était bouclée de cette
façon. J'aime beaucoup quand
les
boucles se bouclent.
Oui, mais qu'est-ce que ça vous a apporté de commencer dans un chœur?
Déjà, le désir d'en sortir.
D'accord.
Non, mais
c'était
pas parce
si
que
difficile
c'est pas
que
bien.
Ça.
C'est très difficile en fait d'être artiste des chœurs. Très difficile parce que vous êtes corvéable à merci, parce que vous travaillez beaucoup, vous entretenez beaucoup votre voix. Vous êtes aussi sous pression, même si c'est pas la même pression que celle d'un soliste, mais vous êtes un peu mis à toutes les sauces et on ne vous voit jamais. Donc c'est quelque chose de difficile. Il faut être musicien. Et très consciencieux
Et donc, pourquoi en sortir ?
Ben, on commence à passer des auditions et on espère que ça va marcher.
Et c'est quand vous êtes devenue soliste, Nathalie Dosset, que vous avez légèrement modifié votre nom ?
Non, c'était avant.
C'était avant, je donc crois. Vous avez enlevé le H. À Nathalie.
Oui, ça c'était il y a longtemps.
C'était pour un petit clin d'œil à Nathalie Wood,
oui,
c'est ça?
Oui, entre autres, parce que j'aime beaucoup les acteurs, et notamment les acteurs et actrices américains, et que j'avais un petit faible pour Nathalie Wood, qui s'appelait Nathalie, comme moi. Et j'ai changé une lettre de mon nom, pour m'approprier ce nom, je sais pas.
La première fois en tant que soliste, vous vous en souvenez?
Oui, ça devait être dans Le Roi Pasteur de Mozart. C'était Jacques Bourgeois à l'époque qui était à l'initiative de ce projet. Et c'était mon prof de théâtre de Bordeaux, Gérard Laurent, qui mettait en scène. Et on était des jeunes chanteurs à participer à cette aventure. Et c'était un très joli souvenir.
Alors en 1988, vous êtes première au concours Voix Nouvelle, vous entrez à l'école d'art
deuxième,
lyrique.
Deuxième en fait.
Deuxième, ouais. Ah, très bien.
Bah, j'ai jamais gagné un concours en fait.
D'accord,
sauf
donc deuxième.
Sauf le concours Mozart où on était 10 lauréats, sans ordre précis.
Voilà, donc le concours Voix Nouvelle vous fait rentrer à l'Opéra de Paris, le concours Mozart permet d'entrer à l'Opéra de Vienne.
En fait non, parce que non. J'ai dû repasser une audition l'année d'après.
Ah quand même, d'accord, donc rien n'est acquis.
Non, rien n'est acquis.
Mais Vienne, c'est le Staatsoper, oui. C'est sans doute l'opéra le plus prestigieux du monde.
Oui, et c'est de l'esclavage aussi.
C'est de l'esclavage, mais... alors ça m'intéresse pourquoi, c'est si.
Ben, c'est-à-dire dans la troupe, là aussi vous êtes corvéable à merci. Donc on peut presque rien faire d'autre. Alors heureusement, j'étais jeune, j'avais pas d'enfant, j'avais que ça à faire, mais c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment dur. Et je me souviens avoir mis 4 mois, jour après jour, à apprendre le Rosenkavalier de Strauss, donc le rôle de Sophie. Et j'ai joué Sophie 2 fois et j'ai eu tellement peu de répétitions que j'ai eu extrêmement peur pendant ces 2 représentations. Et si peur que je n'ai plus jamais voulu rejouer Sophie, qui était pourtant un rôle pour ma voix.
Oui, en plus Strauss.
Mais ça, c'était vraiment un souvenir horrible.
Et quels sont les sopranos que vous admirez, les voix qui vous ont fait le plus vibrer?
Quand j'étais jeune, en fait, j'écoutais beaucoup Edita Gruberova, qui n'est pas très connue en France, mais qui est alors une star absolue à Vienne, parce que je trouvais qu'il y avait une facilité dans ses vocalises et dans ses pianissimi, et je l'écoutais beaucoup, pour notamment dans les airs de concert de Mozart, parce que je voulais atteindre cette perfection là et c'était une voix qui potentiellement me ressemblait, quoi. Donc je pouvais m'identifier. Évidemment, à côté de ça, j'aime évidemment Maria Callas énormément, mais je peux adorer aussi Leontine Price, ou Dawn Upshaw dans un autre style, ou je sais pas, ou Christa Ludwig qui vient de nous quitter, voilà.
Et parmi la nouvelle génération, il y a justement des voix qui sont dans ce sillon-là.
Oh oui, bah il y a plein de voix magnifiques. Là, on parlait de Sabine Neuvielle tout à l'heure, mais j'ai eu des collègues aussi comme Angela Gheorghiu, une soprano que j'adore, qui est Anna Netrebko, que je trouve absolument fabuleuse et qui fait un parcours génial, quoi. Elle a commencé à 20 ans en chantant La Reine de la Nuit. Aujourd'hui, elle chante Aïda merveilleusement. Ça, ce sont vraiment des voix exceptionnelles.
Si tu n'as pas pitié de moi, l'air de Cléopâtre, extrait de Jules César de Handel, Nathalie Dessay avec le concert d'Astrée d'Emmanuel Haïm. Alors on parlait tout à l'heure de Laurent Pelly qui était un peu votre frère, je crois que c'est le mot que vous employez. Emmanuel Haïm, c'est un peu votre sœur en musique. Laurent oui. Pelly, il est metteur en scène, Emmanuel Haïm est chef d'orchestre. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire la relation entre une chanteuse soliste d'opéra et un ou une chef d'orchestre?
Emmanuel, je considère que c'est elle qui m'a initiée à la musique baroque. Donc elle m'a appris énormément. C'est d'abord un puits de science. Et c'est quelqu'un qui adore partager, qui adore enseigner et qui accompagne vraiment les chanteurs merveilleusement. Mais au sens dans le travail, c'est-à-dire que on travaille beaucoup en amont. C'est avec elle, en tout cas, qu'on écrit tous les da capo, c'est-à-dire dans les airs baroques, il y a trois parties. Il y a une partie A qui est l'exposition, une partie B qui est différente, et une partie A prime qui est l'exposition plus des vocalises rajoutées par le chanteur. Alors à l'époque, les chanteurs inventaient eux-mêmes, parfois même sur l'instant, des variations. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui savent le faire. Il y en a quelques-uns quand même. Et moi, ce qui m'amusait beaucoup, c'était une fois qu'on avait tout écrit, tout bien répété avec Emmanuel, de varier un tout petit peu chaque soir. Ça, c'était génial.
L'opéra, Nathalie Dessay, garde quand même une image relativement fermée, même si les choses se sont quand même beaucoup améliorées hein, depuis quelques dizaines d'années. Comment ouvrir l'opéra à tous?
Aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que l'opéra ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. C'est-à-dire, l'opéra ne peut pas être sonorisé, par exemple. Sinon, ça enlève ce qui fait sa beauté. Alors bien sûr, si
donc les grands opéras en extérieur, dans les stades, c'est pas votre truc.
Non, parce que c'est pas de l'opéra. C'est du grand spectacle, c'est tout ce qu'on veut. Ça peut être très bien, mais c'est pas l'émotion de la voix et de la musique directe.
Donc l'opéra à la télévision non plus alors?
Ah non. Non. Mais voilà, donc ça veut dire qu'il faut rester dans des salles qui sont à dimension humaine. D'ailleurs, au-delà d'un certain nombre de places, c'est compliqué. Au Met, il y a 3700 places, c'est presque trop grand déjà. À la Bastille, il y a 2700 places, c'est déjà bien grand. Mais je trouve que c'est là que ça doit se passer. Et alors forcément, il peut y avoir que des gens déçus de ne pas pouvoir avoir de place, parce que voilà, on peut pas jouer tous les soirs déjà. Ou alors il faudrait des deuxièmes castes, des troisièmes castes, parce que c'est très très fatigant. Donc on peut donner qu'un certain nombre de représentations, et forcément il y a pas la place pour tout le monde. Mais je conseille quand même d'aller au moins une fois dans sa vie expérimenter ce que c'est.
Et il faut aller voir quel opéra alors, pour la première fois de sa vie.
Alors, la première fois de sa vie, il ne faut pas tout de suite aller voir de la Maison des Morts, par exemple.
C'est
hein.
Sûr.
Ni Moïse et Aaron, non. Non. Il faut, je dirais qu'un bon opéra pour commencer, c'est Tosca. Parce que l'histoire est simple. La musique est sublime. Il n'y a que des tubes. On peut aussi éventuellement aller voir Carmen. Carmen, c'est facile.
Oui.
Tout le monde comprend.
Un air, voire deux ou trois, voilà. Ou même plus.
Je dirais que dans Mozart, on peut aller voir La Flûte Enchantée, par exemple. Ces trois opéras-là, on peut peut-être commencer comme ça.
Alors, on ne vous verra plus sur une scène d'opéra, Nathalie Dessay, mais on vous verra au théâtre à la rentrée, parce que vous continuez évidemment sur les planches.
Oui. Alors déjà, fin juin, début juillet, au Châtelet, dans L'Assassinat d'Yitzhak Rabin de Amos Gitai, je vais chanter et aussi dire le texte. Et puis, je vais faire des concerts aussi cet été, alors avec Philippe Cassard, concert classique, avec Yvan Cassard du Nougaro et de la comédie musicale. Et puis, à la rentrée, donc un texte de Marine Diaye qui s'appelle Hilda, qu'on va jouer au TNS et au Plateau Sauvage. Donc ça, c'est courant septembre-octobre, dans une mise en scène d'Elisabeth Chailloux.
Mais bien, rendez-vous est pris. On aura certainement l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, Nathalie Dessay, The Opera Singer. C'est donc le titre de ce coffret de 33 CD et 19 DVD disponibles chez Warner Classics. Et on va se quitter avec Lucia di Lammermoor, l'air de la folie. À plusieurs reprises, notamment avec Ludovic Tézier, dans une mise en scène de Marie Zimmermann, ici avec l'orchestre du Metropolitan Opera, dirigé par James Levin. Dans un instant, l'info sur RFI, on se retrouve demain avec un album jeunesse, Monsieur Tan, l'auteur et créateur de la série Mortel Adèle, et vous m'en direz des nouvelles.